Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'élection présidentielle se joue déjà aujourd'hui avec la décision de justice attendue cet après-midi dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Concrètement, Marine Le Pen va savoir aujourd'hui si elle peut ou pas se présenter à cette élection. Pendant ce temps, la France suffoque, 61 départements en alerte orange canicule. Ce matin, ça recommence. Et la France brûle aussi, même dans des départements pas du tout habitués comme l'Essonne qui est en alerte maximale incendie.
Il y aura un avant et un après 7 juillet au Rassemblement National.
Oui, parce que c'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris va donc rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Autrement dit, c'est aujourd'hui que Marine Le Pen va savoir si, oui ou non, elle peut se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique RMC en direct ce matin. La décision va tomber dans l'après-midi et ensuite, vous nous dites que ça va aller très vite au Rassemblement National.
Oui, c'est Marine Le Pen elle-même qui a donné la consigne à ses troupes. Une fois la décision connue, la campagne doit commencer, pas le temps en somme d'épiloguer sur les juges. Voilà pourquoi elle veut annoncer dès ce soir sa décision aux 20h. Et son entourage le répète, elle ne prendra pas le moindre risque. Même en cas de flou, elle renoncera et passera immédiatement le flambeau à Jordan Bardella. Au RN, les deux scénarios sont écrits pour ce soir et pour les prochains jours. Certaines choses ont même été calées par Jordan Bardella et Marine Le Pen en tête à tête pour éviter les fuites. Une fois la décision des juges connue, ils se verront cet après-midi au siège du parti avant le 20h. Si elle est empêchée, lui restera silencieux au moins 24 heures, puis lancera sa campagne d'ici à la fin de la semaine. En revanche, si elle peut finalement se présenter, bien là, c'est le scénario rêvé pour elle. Un de ses proches jubile déjà. Ce serait le phénix qui renaît de ses cendres. Ça la boosterait. En attendant, c'est vertigineux pour elle comme pour lui, témoigne un cadre. Et au-delà du RN, en fait, c'est toute la classe politique qui retient son souffle aujourd'hui. Pour tous, ce 7 juillet est coché depuis des mois comme le réel premier jour de la campagne présidentielle.
Et alors, il y a un monde dans lequel Marine Le Pen peut se présenter à cette élection, même en cas de condamnation, mais le chemin semble assez étroit.
Oui, parce qu'une relaxe paraît peu probable. Marine Le Pen, en appel, n'a pas contesté les faits. Elle a plaidé plutôt la bonne foi en espérant une atténuation de sa condamnation. Alors, il faudra surveiller deux points essentiels cet après-midi. La peine d'inéligibilité, 5 ans requis. Il faudrait que les juges la ramènent à 2 ans maximum. Elle aurait ainsi fini de la purger avant le premier tour. Et puis, il faut éviter la prison ferme. À minima, la transformer en sursis pour échapper au bracelet électronique qui l'empêcherait de faire campagne librement. Et il faut encore ajouter une condition, que le parquet ne décide pas de se pourvoir en cassation pour contester la décision, ce qui repousserait encore l'échéance de plusieurs mois.
Et la réaction également du candidat des Républicains, Bruno Retailleau. Il sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face.
Alors en attendant, le gouvernement se réunit aujourd'hui pour parler des finances publiques. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, convoque le comité d'alerte récemment créé. La première fois qu'il s'était réuni, c'était dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Et le gouvernement avait annoncé 6 milliards d'euros d'économies. Cette fois, il est question de revoir la prévision de croissance à la baisse. C'est dans ce contexte économique aussi que les salariés de RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité en France, alerte sur l'état de nos infrastructures, pas du tout adaptées, disent-ils, aux fortes chaleurs. Ils alertent précisément sur un danger grave et imminent. Alors ce matin, il y a du mieux sur le front des incendies. Le vent s'est calmé près de la Méditerranée, mais le feu n'est toujours pas fixé dans les Pyrénées-Orientales, où les flammes ont parcouru près de 5000 hectares de végétation depuis le week-end dernier, à l'ouest de Perpignan. On parle désormais de 12 000 habitants évacués dans le dernier bilan du préfet. Il y a un autre feu qui progresse encore là ce matin dans les montagne de la Drôme a dit. Il y a 2 villages qui ont été évacués dans la soirée. Et alors, il y a ce matin 3 départements au niveau d'alerte le plus élevé pour les départs de feu. Le Vaucluse, les Deux-Sèvres, c'est déjà arrivé. Et alors, plus surprenant, mais l'Essonne. Écoutez, pourquoi ce département de l'Essonne avec le météorologue Patrick Marlière?
On attend sur ce département les températures peut-être les plus élevées de l'Île-de-France, 36 à 38 degrés. L'humidité qui est très basse. Là, elle était même inférieure à 20%. Et puis, le troisième point, ce sont les vents qui vont souffler à plus de 40 km à l'heure. Comme l'Essonne a plus de 23% de son territoire en forêt, mais aussi tous les travaux des champs, le monde agricole est en pleine effervescence pour la récolte des blés, par exemple, les conditions sont réunies pour que les moindres étincelles qui peuvent être produites par l'activité humaine pourraient déclencher elles-mêmes ces feux de forêt.
Et leur propagation est fortement influencée par la chaleur, confirme Météo France, qui a donc placé 61 départements en alerte orange. La canicule tisse sa toile, de plus en plus de régions sont concernées. Le répit aurait été donc de courte durée, Géraldine Demory. Le scénario du pire est encore une fois en train de se confirmer.
Ouais, une canicule longue et intense qui se rapprochait de celle du mois de juin. C'est le scénario qui est maintenant privilégié. Alors, il reste encore beaucoup d'incertitudes, mais il est clair que le dôme de chaleur est bien installé sur le pays. Après plusieurs semaines déjà très chaudes, les sols secs, l'absence de vraies pauses favorise des températures encore plus élevées l'après-midi. Donc, dans les prochains jours, les températures devraient assez peu évoluer, avec notamment les 40 degrés fréquemment atteints entre la Nouvelle-Aquitaine et le golfe du Lion. Ensuite, certains scénarios voient une intensification de la chaleur pour le week-end, avec des pointes à plus de 43 degrés envisagées sur le sud-ouest. Ça va dépendre de la position exacte d'une goutte froide près de l'Espagne. Mais ce qui est sûr, c'est que la chaleur va durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
Et c'est donc sous ces fortes chaleurs que seront annoncés, dévoilés les résultats du baccalauréat à partir de la fin de matinée pour la moitié des académies. C'est aujourd'hui que ces résultats vont tomber. Alors ceux qui en souffrent de la chaleur, plus précisément, ce sont les coureurs du Tour de France. Ils vont se lancer là tout à l'heure dans la quatrième étape de cette grande boucle longue de 182 km entre Carcassonne et Foix. Une des régions où il fait le plus chaud en ce moment. Et en gros, Kevin Morand, ils vont pédaler toute la journée sous une quarantaine de degrés.
Oui, le peloton a quitté l'Espagne hier et le directeur sportif de Decathlon CMA-CGM, Julien Jourdi, n'en revenait pas de la température.
Je sais pas si mon compteur dans la voiture marchait, mais j'ai vu 46.
Et 38 degrés sont encore annoncés à Foix, ville arrivée cet après-midi. Mais les coureurs s'y sont préparés juste avant le tour, comme Baptiste Westhofer et Warren Barguil.
Là, pendant il y avait la dernière canicule, j'allais rouler aux heures où il faisait le plus chaud. Le grand public, faut pas faire ça, mais le corps humain, en fait, il a des capacités d'adaptation extraordinaires. Et en seulement 3-4 jours, t'es adapté à ça.
Limite, les vagues de chaleur, elles sont plus dures à la maison, parce qu'on n'a pas une voiture derrière nous pour nous mettre de la glace et avoir des bidons frais.
Les équipes mettent donc tout en œuvre pour rafraîchir les coureurs avant, pendant et après l'étape.
En quantité de glace, ça peut monter jusqu'à 80 voire 100 kilos sur une journée.
Le médecin de la formation Total Energy, Paul Verrague.
Avant le départ de l'étape, l'objectif c'est de ne pas faire monter la température corporelle dans le bus avec la climatisation, des gilets de froid. Et après, pendant l'étape, il y a beaucoup de bidons d'eau qui sont dans les voitures, des bas de glace. En post-étape, redescendre avec les bains froids.
Un protocole forte chaleur permettant des adaptations de la course peut être déclenché en fonction de la température, du taux d'humidité et du vent.
Et le maillot jaune est déjà sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar, qui ne laisse aucune miette aux autres, qui a remporté la troisième étape hier aux Angles.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors la qualification, je vous la signale, dans la soirée de l'Espagne 1-0, c'était contre le Portugal. La qualification aussi cette nuit de la Belgique 4-1 contre les États-Unis. L'intervention de Donald Trump pour faire annuler un carton rouge n'a rien changé. Au contraire, ça a galvanisé les Belges. C'est ce que nous dit le milieu de terrain des Diables Rouges, Nicolas Raskin.
Ouais, bien sûr, ça a motivé le groupe. Il y a toujours une justice d'une façon ou d'une autre dans la vie. Et je pense que quand tu essayes de faire quelque chose, que tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'était quelque chose d'un peu particulier, je pense que ça te revient toujours un moment. Ouais, supplément d'âme de part au début du match par rapport à ça. Ça a donné le match que ça a donné aujourd'hui et maintenant on est très heureux et on va regarder vers le quart de finale.
Alors les trois pays hôtes sont désormais éliminés. Il y aura les deux derniers huitièmes de finale ce soir. Les Bleus préparent leur quart de jeudi, vous le savez, contre le Maroc dans un contexte de polémique. On vient de parler des propos racistes d'une sénatrice au Paraguay visant Kylian Mbappé. Le joueur les a condamnés, tout comme dans la foulée la FFF, la ministre des Sports, Emmanuel Macron, le président de la FIFA. La sénatrice a eu le culot de répondre là dans la nuit en demandant des excuses à Mbappé. Elle explique, et je vous jure que tout ça est vrai, qu'elle aime la France parce qu'elle a passé le dernier Noël à Courchevel et le nouvel an à Saint-Tropez.
Inouï. Enfin, je n'ai plus de mots, c'est absolument inouï. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, évidemment, vous réagissez au 32-16. C'était le journal de Quentin Vinet.